À voix nue, par Emmanuel Burdeau et Jean-Michel Frodon. Entretien avec Éric Rohmer, cinéaste. Aujourd'hui, troisième volet. Comment je prépare mes films et la continuité d'une œuvre.
Quand je pense à un film, je ne pense pas, si je puis dire, parce que peut-être, je pense à mon insu. Je ne pense pas au découpage. Je pense pas au montage, je pense pas à l'image, je pense pas au jeu des acteurs. Je pense à mon histoire. En fin de compte, je ne vois pas le film. Je ne vois rien. Et puis, de toute façon, si j'ai pas les décors, je vois rien. Mais j'ai quand même fait des films. Il y a quelque chose derrière moi qui me pousse, un passé, si vous voulez, cinématographique, qui fait que je ne peux pas penser à une scène intournable. Voilà. Et comment est-ce que je fais le découpage? Eh bien, je le fais sur place, je le fais à vif. Je ne fais pas l'avance. J'écris en général dialogue à l'avance, sauf dans les films qui sont d'improvisation. Enfin, en particulier, Le Rayon Vert. C'est peut-être le seul qui est vraiment d'improvisation. Je ne fais pas comme certains qui écrivent le texte juste avant le tournage et puis qui donnent au comédien le matin. Non, pas du tout. Mon texte est écrit. Je donne très à l'avance à l'acteur, de façon qu'il est bien assimilé, etc. Mais, en ce qui concerne la façon dont l'acteur sera placé, ses mouvements, tout, en fait, tout ce qu'on peut appeler la mise en scène, eh bien, non, j'ai pas d'idée. Alors, les idées me viennent très souvent quand je prépare le film, parce que de plus en plus, d'ailleurs, je prépare le film à l'avance. C'est peut-être un peu plus difficile lorsqu'il y a des décors qui sont fabriqués, parce que j'ai pas le décor. Et ça, je suis un peu là-dessus, je sens une certaine frustration. Mais enfin, donc l'opération dont je vais vous parler se réalisera d'ailleurs tout juste avant le tournage, alors que souvent, lorsqu'il s'agit de décors réels et des décors dont je peux disposer, eh bien, je peux le faire quelques semaines avant. Je fais une sorte de pré-tournage avec une petite caméra. Au début, c'était une caméra en Super 8, et maintenant, c'est une caméra DV, enfin, une caméra digitale ou numérique. Et je dis aux acteurs de jouer, je leur donne aucune indication particulière, je leur dis, vous mettez ici, bon. Je peux leur dire, vous asseyez peut-être pour vous lever. Enfin, en général, je ne donne pas d'indication. Et puis, moi-même, je vois, je filme, ou je regarde, je sais pas, je filme, je regarde. Enfin, soit que j'ai filmé, soit que j'ai regardé, j'ai fait jouer une seconde fois. Alors là, j'ai je découpe à ce moment-là. C'est-à-dire que je les arrête, moment, je dis, et c'est là-dessus, à partir de cela, que j'établis mon découpage. Alors dans le dernier film, Le Triple Agent, comme je ne disposais pas du décor trop à l'avance, je l'ai fait très souvent, juste avant de tourner, mais j'ai toujours fait. On n'a jamais tourné avec la vraie caméra sans avoir fait un petit tournage, soit que ce soit ma capitaine de la caméra, soit que ce soit l'opératrice, sans avoir fait un petit tournage préalable qui nous permet de dire, on a ce plan, etc., et qui nous permettra de tourner, si vous voulez, dans un ordre qui n'est pas forcément, d'ailleurs, l'ordre de la scène, parce que c'est plus facile, lorsqu'il y a des champs contre champs, de tourner d'abord dans une direction et ensuite dans une direction.
À votre chef opératrice, Diane Maratier, donc oui. vous lui donnez des consignes très précises, ou bien, pour vous, du moment que, globalement, l'angle de prise de vue est ici, ça relève de ses prérogatives de régler ça?
Non, enfin, moi, j'aime bien travailler avec des gens qui sont responsables, c'est-à-dire, et qui, qui ont leur avis, etc. Bon, je suis pas quelqu'un qui dit « fais ça, c'est ça ». Bon. Et je suis pas non plus quelqu'un qui dit « oui, oui » et qui accepte. Non, c'est un travail de collaboration. Bon, on se met là, par exemple. Bon. En ce qui concerne le découpage, c'est quand même... C'est moi qui dirige l'opération, même s'il est vrai que mon opérateur ou opératrice puisse dire « Ah, il vaut peut-être mieux faire comme ça, etc. » Mais en ce qui concerne ensuite le tournage, c'est-à-dire la précision, l'endroit précis où placer la caméra, etc., eh bien, à ce moment-là, bon, mon opérateur a effectivement davantage son mot à dire. Les opérateurs que j'ai eus sont des personnes avec qui je me suis toujours bien entendu, peut-être que je m'entendrai très bien avec d'autres, mais... je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un qui essaie de me contredire sans arrêt, enfin, comme j'ai pu parfois rencontrer, enfin, avec quelqu'un qui serait vexé ou choqué de ce que je vérifie tout, que je suis toujours sur son dos. Ça, là, bon, c'est vrai pour le montage et c'est vrai également pour la prise de vue. Je suis là. Mais en revanche, parfois, quand je connais bien quelqu'un, oui, comme c'était le cas pour Nestor, comme c'était le cas pour Diane, eh bien, il m'arrive que parfois, bon, allez-y, je n'interviens pas, je n'interviens pas. Mais enfin, là, je regardais avec soin, et j'étais toujours derrière ce qu'on appelle, enfin, le combo, c'est-à-dire le petit écran de témoin vidéo, qui d'ailleurs produit une image assez moche, mais enfin, qui permet de contrôler l'image de très près. De sorte que j'ai pas de surprise avec. Alors que, dans un tournage autrefois, on allait un peu les yeux bandés, on savait pas ce qui se passait, oui, pour l'image. Pour le son, effectivement, on pouvait le réécouter, mais l'image, il n'y avait pas moyen de la voir.
Vous êtes célèbre pour votre régularité et votre constance. Je pense qu'on peut dire que vous êtes sans doute depuis 40 ans, et maintenant un peu plus, le cinéaste français dont la constance a été le plus remarquable. Est-ce que vous diriez malgré tout, et je demande ça peut-être pour anticiper ce qu'on pourra dire tout à l'heure sur l'intégrale à la Cinémathèque, sur votre sentiment à l'égard de cet événement. Est-ce que vous diriez quand même malgré tout que votre rapport au découpage, à la mise en scène ou au montage s'est modifié au cours du temps? Ou de manière plus précise, est-ce qu'il y a des choses que vous faites maintenant que vous ne seriez pas permis au début, ou l'inverse?
Je suis peut-être plus à l'aise maintenant qu'autrefois. Mais enfin, autrefois, si on voulait, j'étais peut-être un peu téméraire, bon, mais enfin, ma témérité était payante. Maintenant, je ne suis plus téméraire, je sais où je vais. Et est-ce qu'il y a une évolution? Quand je revois il m'arrive de revoir mes anciens films, je trouve que je n'ai pas tellement.
Est-ce que vous avez.
C'est pas changé, oui.
Excusez-moi, vous avez découpé votre œuvre, si je puis dire, en série de films qui sont des découpages, disons, enfin, thématiques, plutôt thématiques que formelles. Et vous n'avez pas connu, comme exemplairement Godard, des périodes marquées par tel ou tel parti pris formel, très différent d'une période à l'autre.
Mais c'est-à-dire que. Enfin, par exemple, je sais que je ne ferai pas, oui, certains plans, certaines façons de certaines prises de vue, certains gros plans, surtout des gros plans, que je peux admirer et dire chez les autres, je sais que ce n'est pas ma façon de faire et que je ne suis pas tenté, si vous voulez, de les employer. Alors que quand je commençais à filmer, je ne savais pas très bien. J'avais pas des idées peut-être aussi nettes. Mais il y a une chose tout de même qui est particulière au cinéma par rapport aux autres arts. C'est pourquoi on pourrait même se demander si le cinéma est un art. J'ai toujours plaidé pour le cinéma et crié hautement quand j'étais au Cahier que le cinéma était un art. Bon. Mais enfin, en peinture par exemple, et on peut le dire aussi en musique, on peut le dire. Il y a une évolution. Un peintre, si vous voulez, un peintre ancien, mais et à plus forte raison les modernes, eh bien évolue. Fait. Il ne peint pas à 30 ans ou à 20 ans comme il peint à 60 ans. Quand il commence à peindre, on sent les influences, presque toujours. Et puis ensuite, il dégage des influences et atteint sa personnalité souvent assez tard. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, au Cahier du cinéma, on a souvent défendu les cinéastes les plus âgés, parce que on pensait qu'ils étaient plus personnels qu'au début, alors qu'au début, ils étaient plus estimés. C'est le cas, par exemple, de Fritz Lang, qu'on admirait en général pour Métropolis, mais nous, l'admirions plutôt pour La Vraisemblable Vérité. De même, Renoir, qui était admiré pour Nana, alors qu'on admirait pour Elena et les Hommes, je ne sais pas quoi, oui. Même Hawks, que les gens admiraient pour Scarface, plus que pour les Atari, je ne sais pas. Bon. Alors, mais il y avait effectivement, chez ces cinéastes, il y avait tout de même plus d'évolution. Parce que le cinéma évoluait, mais c'était pas. Il y avait la leur, et puis il y avait aussi celle du cinéma. Bon. Mais actuellement, je ne vois pas du tout quelle évolution, et surtout quelle évolution positive, il peut y avoir chez les metteurs en scène. Et c'est vrai également de moi-même. Je ne pense pas que mes films actuels soient meilleurs que ceux que j'ai fait au début. Je ne pense pas que mes films actuels soient plus personnels que ceux que j'ai fait au début. Je ne sais pas. Bon. Et je pourrais dire la même chose, sans méchanceté, de mes amis de la Nouvelle Vague. Alors, Évidemment, il y a le cas Godard, parce qu'il y a chez Godard davantage une évolution, parce qu'effectivement, il y avait un certain réalisme tout de même dans À bout de souffle, qui a absolument disparu dans ses dernières œuvres. Bon. Mais si on prend Jacques Rivette, ou bien Truffaut, oui aussi, entre Les cases sans cou et La femme d'à côté, bon, je vois pas d'évolution particulière, sauf que les sujets ont changé. Et en ce qui concerne Claude Chabrol, également pareil. Oui. J'ai revu Le Beau Serge récemment. Mais je trouve que c'est un film qui est, on y avait reproché à l'époque peut-être un peu de gaucherie, je sais pas quoi. Non, je trouve qu'il est d'une maîtrise extraordinaire et d'une modernité fantastique. Bon. Alors. Faudrait-il dire, alors comme certains esprits chagrins peuvent le dire, et bon, peut-être est-ce que je n'échappe pas à la critique, j'en sais rien, mais c'est qu'il n'y a pas ascension, mais il y a plutôt décadence, c'est-à-dire que les premières œuvres sont meilleures que les dernières, j'en sais rien. Bon, dans ce cas-là, je ne peux pas être jugé parti. Mais enfin, il y a quand même une chose qui peut poser à réflexion, pourquoi au cinéma, cette évolution de la manière est-elle moins marquante? Enfin, vous m'avez cité Godard, pouvez-vous me citer quelqu'un d'autre?
Quelqu'un d'autre
chez qui on remarque, français ou étranger, une évolution de style, si vous voulez. Une évolution de style, de même qu'on la remarque aussi bien chez un écrivain, une évolution d'écriture, ou chez de peintres, ou chez un musicien. Est-ce qu'on peut remarquer ça chez un cinéaste?
Chez beaucoup de cinéastes, on peut distinguer des périodes, c'est-à-dire des alternances entre différents styles. On peut en distinguer chez Oliveira, on peut en distinguer chez les Straub, on peut en distinguer même chez des cinéastes plus récents, comme Moussia Ossienne, qui va...
Chez Philippe Garrel.
On peut distinguer des...
Oui, Philippe Garrel, oui, parce que... Mais
des oscillations, disons.
Il y a autre chose. Dans les gens comme Garrel, il y a le fait qu'ils sont... Garrel, c'est peut-être le procédé inverse, c'est-à-dire qu'ils vont du concret à l'abstrait, ou bien de l'abstrait au concret. Enfin, c'est-à-dire, les premiers Garrel étaient des films invisibles en salle, alors que les derniers sont davantage, des choses comme ça. Non, mais Bergman, par exemple, ben, est-ce qu'il a évolué vraiment?
Mais il me semble, je retourne...
Oui. Oui. Répondre, oui. Enfin, ou en tout cas, il me semble que c'est ce que veut dire Emmanuel. Tous ces films ne relèvent pas du même cadre esthétique. Il y a des films... D'abord, il y a les films directement liés à la télévision, qui occupe une place particulière. Il y a les films qui renvoient plus spécifiquement au théâtre. Il y a des films construits sur un rapport à une actrice. Enfin, on pourrait introduire des typologies à l'intérieur de l'œuvre de Bergman.
Et puis pour renverser ce que je disais tout à l'heure, il me semble, je risque à nouveau une hypothèse, que chez vous, il y a une évolution, malgré tout.
Ah bon, eh bien, je suis curieux de savoir.
Alors, je pense que si on prend ne serait-ce que les deux derniers films qui nous occupent le plus aujourd'hui, c'est Triple Agent et, L'Anglaise et le Duc, il me semble que dans L'Anglaise et le Duc, le travail que vous faites sur les incrustations numériques ne témoigne pas seulement de ce qu'il y a chez vous de remarquable, quasiment de légendaire, qui est une énorme capacité d'adaptabilité à l'évolution des techniques. C'est frappant quand on revoit les films des années 80 que chacun des films est non seulement, disons, un document exact sur un certain état de la France à une date, mais aussi suit l'évolution musicale, suit l'évolution vestimentaire, suit l'évolution architecturale. Donc pour moi, L'Anglais et le Duc, c'est pas simplement ça qui illustre le film, c'est aussi, je dirais quand même, pour le dire de manière un peu générale, un certain rapport à un nouvel état des images, je dirais, et que je retrouve aussi dans Triple Agent. C'est-à-dire que, et c'est là pour moi l'énigme ou le mystère du film, c'est-à-dire que ces images d'actualité, je me demande si elles jouent par rapport au dialogue comme référent, pour que ces nuées de paroles soient quand même référées à quelque chose de concret, ou si au contraire elles sont renvoyées dos à dos comme deux types d'images, l'une surtout vocale et l'autre surtout visuelle, qui l'une et l'autre, disons, proliféreraient sans référent, si je puis dire. Et ça me paraît, disons, cet usage-là de l'archive, de l'image d'actualité, je ne sais pas s'il faut la dire moderne ou je ne sais pas comment est-ce qu'il faut la qualifier, mais elle me paraît contemporaine, oui. Enfin, je crois. Alors, je ne sais pas si ça dessine une évolution, derniers films, pour moi, disent quelque chose de ce point de vue-là.
Mais écoutez, c'est vous, dans ce cas-là, qui êtes plus qualifié pour parler de cela que moi-même. Moi-même, je ne me rends pas toujours très bien compte. Ce que je sais, c'est que j'ai, tout en restant moi-même, j'ai envie souvent d'aller dans des voies qui sont un peu différentes, non seulement en ce qui concerne le scénario, parce qu'on peut considérer que dans ces films historiques, eh bien, la différence, si vous voulez, entre les effets historiques et les contes, c'est que c'est, ça vient avant tout du scénario. Bon. Mais aussi de la façon de tourner. Donc, par exemple, si je fais des films, bon, j'ai toujours eu envie de faire des films improvisés, j'ai réussi. J'arrivais pas, effectivement, à un moment, je pensais que Le Genou nucléaire serait un film plus ou moins improvisé. Finalement, il y a un peu d'improvisation dans Le Genou nucléaire, qui d'ailleurs pas ce qu'il y a de mieux, d'ailleurs. J'aurais peut-être de merde.
Mais enfin, ça.
Non, il y en a une qui est bien, je trouve. Ben non, il y en a une qui est bien parce qu'elle est drôle et parce que celui qui improvise est bien. Et...
C'est
le kini. C'est le kini. C'est lorsque j'ai des acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels, je pense que c'est très difficile de leur faire dire un texte, et s'ils disent un texte, ils le diront faux. Donc à ce moment-là, c'est de l'improvisation. C'est-à-dire, je raconte l'histoire, il faut dire ça, et ils le disent. Non. Alors, le kini s'en sort très bien. Il y en a d'autres qui s'en sortent de façon plus maladroite, cela dit, en même temps, comme ils sont un peu ridicules dans le film, enfin, si je puis dire, enfin, bon, ils jouent des personnages un peu... Ce n'est pas gênant. Bon. Même dans Manuche Mose, qui est un film très écrit, on voit des ingénieurs de chez Michelin, j'ai pas voulu leur écrire un texte, j'ai pensé que si j'écrivais un texte, ils réciteraient. Mais c'est ça. Donc, je les ai fait improviser, mais bon. Voilà. Mais je n'arrivais pas à faire un film entier comme ça. Enfin. Et je vous dis, ça détonnait un peu, si je dans l'intérieur de mes films écrits. Alors j'ai résolu à un moment de faire un film absolument improvisé qui était Le Rayon Vert. Et là, je crois avoir réussi ce que je voulais faire. Bon, et finalement, le film a effectivement plu. Oui, mais c'est pas une évolution, c'est tout simplement que j'ai adopté une façon de filmer différente. Oui, mais c'est pas ce que je peux appeler une évolution, parce que finalement, après Manuche Mose, je suis retourné à des films qui étaient très écrits.
Ça voudrait dire qu'il y aurait en quelque sorte un vocabulaire cinématographique adapté à chaque film, oui. Et qu'il faut trouver dans chaque cas, même s'ils appartiennent à des grands ensembles stylistiques qui, eux, sont cohérents ou sont...
Oui, enfin, il y a des, oui, je sais pas, c'est très difficile. Enfin, en même temps, il y a par exemple des choses que je déteste actuellement et que je ne détestais pas autrefois, mais sans les détester, je l'ai pas utilisé parce qu'à ce moment-là, c'était très difficile. Enfin, par exemple, le tournage avec la caméra, je sais pas comment on peut appeler ça, soit à l'épaule, soit à la main, soit quoi, avec une caméra qui n'est pas sur pied. Bon, je n'aime pas ça du tout. Eh bien, actuellement, c'est constant. Et je n'aime pas. Bon, je n'aime pas, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que moi-même, je ne me sens pas à l'aise là-dedans. Alors, de même, les mouvements d'appareil sur chariot, enfin, plus exactement, les travelling, eh bien, très souvent, j'ai rêvé d'en faire, j'avais une mauvaise conscience de ne pas les utiliser. Et, alors souvent, je ne les ai pas utilisés par économie, mais parfois, j'aurais pu les utiliser, et je ne l'ai pas fait. Eh bien, j'ai trouvé à un moment... une occasion d'en faire de façon absolument justifiée. Et j'en suis très content. Si vous voulez, j'ai employé la manière forte.
C'était dans le conte d'été.
Alors à ce moment, ça bouge. Ça bouge, mais pourquoi? Parce que le personnage marche, oui. Et puis ça bouge loin, pendant des... Ça bouge même pendant... Je crois qu'il y en a un qui est peut-être pas d'un kilomètre, mais il est plusieurs centaines de mètres sur la plage. Ça. Et alors ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Mais... dans ce film-ci, dans le film que je viens de tourner, dans Le Triple Agent, de même dans L'Orgueil et le Duc, eh bien, L'Orgueil et le Duc, encore, ça se justifie amplement parce que c'est... Il y a référence à la peinture et à la vision de l'époque. Bon, non, c'est très bien que ça s'affiche. Mais dans celui-ci, il n'y a pas de tableau. Même de petites choses, c'est très statique comme caméra. Alors peut-être que c'est plus volontaire, c'est plus voulu, si vous voulez, le statisme est plus voulu dans ce film-ci, qui n'était voulu au moment de la Marquise d'Eau, où il y a quelques mouvements d'appareil pour donner un peu plus de fluidité. Enfin, il y a quelque chose d'un peu plus heurté dans le dernier, qui va de pair avec l'introduction des actualités. Et là, peut-être, effectivement, on peut considérer qu'il y a une petite évolution, qui d'ailleurs je présente comme un raidissement, oui, auquel on peut donner, si vous voulez, un sens péjoratif, je ne sais pas.
Moi, je ne donne absolument pas de sens péjoratif. Il y a encore une dernière question que j'aurais posée par rapport à cette question de l'évolution, mais peut-être vous la trouverez saugrenue. Il me semble qu'au moment où vous écriviez pour les cahiers, une des choses sur lesquelles vous insistiez beaucoup, je crois, vous d'abord, c'était le fait que... le cinéma n'avait pas à se mêler de politique. Et vous aviez une certaine méfiance, je crois, pour les grands sujets, oui. Pour les films voulant se donner comme ça une ambition politique directe. De ce point de vue-là, comme vous êtes quelqu'un qui a toujours été, je crois, très, très fidèle à certains principes, je suis surpris et j'aimerais avoir au moins quelques commentaires là-dessus sur le fait que vos deux derniers films, enfin, encore une fois, avec une certaine rupture quand même par rapport aux précédents, se donne un cadre historique.
Je n'ai pas dit que les cinémas ne pouvaient pas se mêler de politique actuelle. Bon, parce que j'ai admiré, les premiers films que j'ai admirés, c'est celui d'Eisenstein, qui étaient des films de propagande politique d'une certaine façon, mais enfin, en même temps, avec une certaine ambiguïté, surtout en ce qui concerne Ivan Terrible, mais enfin. Bon. Non, ce que je n'aimais pas, c'est le film message. C'est-à-dire que le film soit jugé en fonction de sa position politique. C'est-à-dire que systématiquement, certains films soient proscrits, soient bannis, et puis, comme incorrects, le monde n'existait pas à l'époque, enfin, et d'autres soient acceptés comme corrects, sans en juger la valeur. Bon, c'est ce point de vue que j'avais, qui est le point de vue d'ailleurs qu'ont eu beaucoup d'écrivains dans le passé, aussi bien Baudelaire ou Flaubert, etc. Bon. Mais, en même temps, non, je trouvais qu'un substrat politique dans un film était intéressant. Il y a un film dont j'avais fait un éloge, un grand éloge, j'ai pas refusé, enfin. C'était le film de Mankiewicz, film d'espionnage, si on peut dire aussi.
L'Américain bien tranquille.
Oui, il y a de la politique dedans. Et également, il y a aussi de la politique dans beaucoup de westerns, il y a quand même de la politique. Oui.
Je dirais que ce texte sur un Américain bien tranquille, je trouve qu'il a presque valeur d'exception dans vos écrits. Le texte où vous parlez le plus matière politique.
Et ben, il y a des films de Ford, par exemple, Le Sergent Noir, Les Deux Cavaliers, tout ça, ou même d'autres. Il y a un film sur les élections, je ne sais pas comment il s'appelle, un film sur les élections. Non, il y a sur les Américains, on fait des films politiques qui sont très intéressants. Mais il y en a d'autres qu'on a combattu au cahier parce qu'on trouvait qu'ils étaient un peu pleurnichards. Qui s'apitoyaient. C'est trop sentimentaux, etc. Et qu'on préférait, non pas forcément l'art pour l'art, mais on préférait un regard, si vous voulez, moins partisan sur les événements.
Et en abordant des grands sujets comme la Révolution ou les années 36-37, vous sentez à aucun moment dans la nécessité ou l'obligation d'être partisan. Vous vous sentez complètement dégagé de ça.
Bon, oui, enfin, non, par exemple, je prends un film. Bon, je pense un film que j'ai revu avant le tournage d'Anglais et le Duc. Le film de Renard, La Marseillaise. Bon, c'est un film qui a été financé par une souscription, je crois, qui a été organisée par le Parti communiste. Et dans le scénario, effectivement, il y a des choses qui portent l'empreinte du parti. Mais ne serait-ce que je crois qu'on ne parle pas de Danton, je ne sais pas quoi. Non, si on peut dire ça en filigrane. Bon. Mais comme Renoir est quelqu'un qui est profondément complexe, c'est ça, finalement, eh bien, c'est un film qui n'est pas du tout partisan. Et j'aime beaucoup ce film. Qu'est-ce qu'il y a comme autre film qui a pu me plaire? Oui, je ne parlerai pas des films de Griffith, parce qu'on me dira qu'ils sont... Non, enfin, les films de Griffith, finalement, à qui on reproche d'être sudiste, je ne trouve pas non plus qu'ils ne sont pas partisans. Ils montrent les gens du Sud. Il est du coup des gens du Sud, mais il n'est pas tellement... Mais puis, il reflète un peu la mentalité de son temps. Abel Gance, Napoléon... Bon, il y a une sorte d'admiration pour Napoléon, mais non, je suis pas du tout contre les films politiques. Ce sont des films que j'aime beaucoup. Si vous voulez, ce sont un peu mes modèles. Ce sont des films que j'ai revus, aussi bien Napoléon d'Abel Gance que le film sur la Révolution de Griffith, bon, qui est de très grosse naïveté, oui, mais qui a de très grande beauté malgré ses naïvetés, et aussi bien que le film de Renard, c'est des films que j'ai vus avant le film sur la Révolution, que j'ai fait moi-même.
C'était à voix nue. Emmanuel Burdeau et Jean-Michel Frodon s'entretenaient avec Éric Romer. Prise de son, Jean-Richard Dufour. Chargé de réalisation, Hélène Daude. Demain, quatrième volet, les parties pris techniques, la musique, la peinture.